Éco-conduite. Le magazine de la conduite responsable, réalisé par la classe de seconde Bac Pro Génie Industriel du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo et Radio Éthique.
Bonjour à tous et bienvenue, ici Marvin,
Nicolas
et Jordan
pour le magazine de l'éco-conduite du lycée technique et hôtelier de Monaco.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre projet qui est basé sur l'éco-conduite dans lequel nous vous proposerons plusieurs chroniques.
Tout d'abord, nous allons parler du réchauffement climatique pour comprendre qu'il est nécessaire de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, puis nous vous présenterons les principes de l'éco-conduite.
Quelles sont les nouvelles technologies en matière de mobilité? Nous entendrons une interview inédite de M. Gildo Palanca-Pastor et notre dernière chronique s'orientera vers l'éco-conduite, mais appliquée aux scooters.
On vous souhaite donc en notre compagnie une bonne écoute sur Radio Éthique.
Alors comme nous vous l'avons dit précédemment, nous allons commencer par notre première chronique, présentée par notre cher Raphaël qui concerne cette question. Pourquoi le réchauffement climatique nécessite-t-il de limiter les gaz à effet de serre?
Bonjour Raphaël.
Bonjour Jordan. Effectivement, le réchauffement climatique est en train de nous poser des problèmes, comme la fonte de la banquise, la disparition de certaines espèces, l'augmentation des ouragans et des cyclones, mais il y en a bien d'autres. Et tous ces problèmes vont forcément engendrer des modifications sur notre mode de vie.
Raphaël, qu'entends-tu par modification de mode de vie?
Les progrès technologiques influencent également ces modifications qui vont aussi augmenter les effets de serre. L'effet de serre est à l'origine un phénomène naturel. Le gaz carbonique et la vapeur d'eau de notre atmosphère retiennent la chaleur sur la surface de la Terre. Sans cet effet, il ferait moins 18 degrés. Les activités humaines augmentent ce phénomène depuis 2 siècles en émettant des gaz additionnels. Ce surplus artificiel d'effet de serre provoque un réchauffement du climat.
Raphaël, pensez-vous que le réchauffement climatique entraîne de lourdes conséquences?
Bien sûr, comme je le disais, cela entraîne la fonte de la banquise, la disparition de certaines espèces, mais aussi un recul économique. Augmentation de la quantité et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, comme les ouragans ou les cyclones. Les conséquences du réchauffement climatique pourraient être lourdes, mais elles provoquent une prise de conscience individuelle et politique porteuse d'espoir.
Alors Raphaël, après tout ce que vous nous avez dit, pensez-vous qu'il y ait des solutions?
L'un des grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est le développement des énergies renouvelables, utilisant la force du vent, du soleil et des marées. Premièrement, il y a l'énergie solaire. Elle peut être de 2 types, thermique ou photovoltaïque. Avec l'énergie thermique, on capte la chaleur du soleil, principalement pour chauffer l'eau d'un chauffe-eau ou des locaux. Les panneaux photovoltaïques, eux, transforment l'énergie solaire en électricité. Ils sont efficaces, évidemment, que dans des régions bénéficiant d'un grand ensoleillement. Cette technologie a tendance à se propager car son efficacité ne cesse de progresser. Deuxièmement, l'énergie éolienne. Les éoliennes, ces moulins à vent modernes qui transforment l'énergie du vent en électricité, sont très efficaces sur les côtes et au large, zones exposées au vent puissant. Mais elles sont souvent critiquées en raison de leur impact visuel sur le paysage. Mais il y a aussi l'énergie hydraulique. Il s'agit de récupérer la force générée par les courants de l'eau afin de la transformer en électricité. Il existe de nombreuses applications et c'est en France la première des énergies renouvelables en termes de production électrique. On connaît moins la biomasse et pourtant, elle est porteuse d'avenir.
Mais Raphaël, qu'est-ce que la biomasse?
La biomasse comprend toutes les matières organiques, bois, plantes, excréments d'animaux, etc., pouvant être transformées en sources d'énergie, par exemple en les brûlant ou en obtenant du méthane par décomposition. Il reste l'énergie géothermique. Il s'agit d'extraire la chaleur présente dans le sol à grande profondeur à des fins de chauffage ou de transformation en électricité. Quant à l'énergie nucléaire, même si elle ne produit aucun CO2, elle pose le problème du stockage des déchets radioactifs. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima sont encore présents dans nos mémoires. Espérons que l'on puisse bientôt s'en passer.
Que doit-on en conclure?
Eh bien, il est souhaitable que la science trouve les solutions afin d'arrêter l'accumulation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Par contre, il est clair que nous devons agir maintenant. C'est pourquoi il convient de revoir nos habitudes de consommation et revenir à des comportements plus rationnels et économes.
Merci Raphaël.
La circulation automobile est l'un des éléments clés du réchauffement climatique. C'est pourquoi nous vous proposons d'opter pour des réflexes simples et quotidiens qui vont vous permettre de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est Brian qui va vous en parler. Bonjour Brian.
Bonjour Marvin. Carburant cher et pollution qui augmente. Une pratique simple existe pour pallier à ces problèmes du quotidien. L'éco-conduite. Ce nouveau style de conduite, plus souple et moins producteur en gaz à effet de serre, permet au conducteur d'économiser jusqu'à 20% sur sa consommation de carburant. Pour cela, il faut respecter quelques règles. Tout d'abord, enchaîner vite les rapports. En effet, cela permet d'utiliser l'efficacité du moteur de manière optimale et donc de consommer moins de carburant. Ne mettez pas la clim car cela entraîne une surconsommation. Il faut également anticiper sur la circulation pour éviter tout freinage brusque. Bien sûr, il faut rouler moins vite et maintenir une vitesse stable. Diminuer sa vitesse de 10 km/h permet en moyenne d'économiser jusqu'à 1 litre par 100 km.
Mais est-ce qu'il existe d'autres solutions ?
Oui, bien sûr, d'autres astuces existent. Utiliser les instruments de bord, le compte tour par exemple. Cela donne une bonne indication de sa consommation en carburant en temps réel. Il faut savoir que monter trop haut dans les tours augmente sa consommation et abîme le moteur. Enfin, dans le meilleur des cas, ayez le réflexe de couper le moteur du véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Cela permet de moins polluer et donc de faire de vous un citoyen plus responsable. N'oubliez pas aussi qu'un bon entretien de son véhicule ainsi que des pneus bien gonflés favorise l'éco-conduite. Et si vous laissiez votre véhicule pour les courts trajets, qui sont les plus consommateurs et les plus polluants, pensez aussi au tram, au bus, au vélo, au covoiturage ou à la marche à pied.
À présent que l'éco-conduite n'a plus de secret pour vous, allons un peu plus loin et découvrons avec Walid les alternatives écologiques que les nouvelles technologies ont à nous offrir. Bonjour Walid.
Bonjour Nicolas. Et oui, effectivement, les nouvelles technologies ont beaucoup à nous apporter pour réduire notre empreinte de carbone. Par exemple, il existe des moteurs capables d'atteindre des records de vitesse. On a l'Ultimate Aero EV qui détenait le titre de voiture la plus rapide du monde. Apparemment, on peut charger à son maximum sur une prise secteur 110 volts en 10 minutes. La transmission est évolutive, allant de 200 à 500 chevaux selon vos besoins, grâce à une configuration double moteur unique qui peut fournir jusqu'à 1200 chevaux. La Chevrolet, qu'on a pu voir au salon Francfort 2011, le concept car hybride Chevrolet Mirai du constructeur américain General Motors, a un aperçu de ce que pourrait être la voiture de sport de demain. La Mirai fait sensation. Modèle qu'on croirait sorti tout droit d'un film de science-fiction, elle a fait sa première apparition en Europe en 2011, non sans avoir déjà fait sensation lors de l'exposition de Séoul il y a quelques mois. Ce roadster hybride fournirait des performances à la hauteur de son caractère sportif, grâce notamment à ses deux moteurs électriques, 4 cylindres turbo fonctionnant également avec une technologie qui leur permet de se recharger en récupérant l'énergie du freinage. Écologique, futuriste et sportive.
Tu nous as aussi parlé d'une berline venant du Japon, dont l'inventeur est le professeur Hiroshi Shinizu.
Oui, Hiroshi Shinizu est professeur à l'université de Keio. Et le modèle qui nous présente se nomme l'Helica. Elle est capable de transporter 4 personnes et leurs bagages. Mais sous son air pato, cette japonaise est présentée comme la voiture électrique la plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 370 km/h. Cette performance, elle la doit à ses batteries au lithium-ion logées sous le plancher, qui lui permettent également d'abattre le 0 à 100 km/h en tout juste 4 secondes. Chacune de ces 8 roues est reliée à un moteur électrique d'une puissance équivalente à 100 chevaux. Vous avez bien compris, la puissance électrique de l'Helica équivaut à 800 chevaux. Le salon de Tokyo, Suzuki a dévoilé son concept car électrique, un prototype parfaitement en ligne avec le thème de la mobilité urbaine. Suzuki, le constructeur nippon, a opté pour une citadine hybride. Originale et très pratique, mais peu puissante. À la différence des prototypes électriques présentés au salon de Francfort, dont l'Opel Rack ou l'Audi Urban, le Q Concept est un modèle plutôt sobre et qui se rapproche davantage de la réalité et des exigences du marché. Grâce à son petit gabarit, cette citadine pourrait facilement se faufiler entre les rues étroites des grandes villes et se garer aisément dans un endroit exigu. Son apparence et son intérieur se rapprochent de la perfection.
Merci Walid. Mais comment parler des nouvelles technologies sans donner la parole à Monsieur Gildo Palanca Pastor, personnalité monégasque incontournable dans le monde de l'automobile écologique. Robin et Diogo ont pu rencontrer l'homme d'affaires un peu avant l'ouverture du salon Ever de Monaco, le salon international des véhicules électriques et des énergies renouvelables.
Comment vous est venue cette passion pour les véhicules électriques ?
En fait, la passion pour l'automobile est une très ancienne passion pour moi. J'ai fait une douzaine d'années de compétition automobile avec des véhicules donc à combustion interne, donc des véhicules dits thermiques. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai investi donc il y a plus de 10 ans dans des technologies de véhicules électriques en rachetant une marque qui s'appelle Venturi, qui a été créée en 1984 et en faisant un spécialiste du véhicule électrique. Il y avait quelque chose d'évident pour moi, c'était que la Principauté de Monaco, finalement, c'est le berceau, un des très grands berceaux de la compétition automobile et d'autre part par l'implication des différents princes et notamment le prince Rainier et le prince Albert, on est enclin à avoir une vraie vision en termes d'environnement. Et donc je souhaitais avec Venturi faire une sorte de synthèse de cette image très forte de la principauté et de son Grand Prix, de son rallye et finalement de la politique de nos princes.
Avec quelle voiture roulez-vous tous les jours ?
Alors la plupart du temps je roule en scooter électrique. Donc du coup, je fabrique des voitures, mais je vais bientôt aussi fabriquer des scooters, parce que c'est quand même très pratique. J'ai la chance d'avoir accès à tout un tas de prototypes que nous fabriquons, de véhicules de pré-série, et donc je peux passer avec tout un tas d'autres véhicules. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté totalement de rouler avec des véhicules thermiques. L'électrique n'apporte pas 100% des réponses, et il m'arrive bien sûr de rouler avec des voitures qui ne soient pas des Venturi et qui aient encore un pot d'échappement, mais c'est relativement rare.
Combien y a-t-il d'employés dans la société Venturi ? Comment se partage-t-elle entre conception et réalisation ?
Aujourd'hui, on a globalement 35 personnes à Monaco qui sont essentiellement des ingénieurs. On a également une partie atelier qui est très importante et nous ouvrons également à Monaco en ce moment même un banc moteur, donc avec des techniciens qui travaillent sur ce banc qui est un banc de très forte puissance, donc avec des moteurs très très performants. À côté de ça, donc, nous avons une usine dans la Sarthe et où là nous avons 25 personnes qui travaillent à l'assemblage de véhicules dans une usine qui ne s'appelle pas Venturi mais qui a vocation à assembler les véhicules de marque Venturi, les véhicules de marque Vauxhall, c'est une marque également que nous avons rachetée l'année dernière, et également des véhicules de grands constructeurs. Nous avons également une équipe à Bordeaux qui gère la chimie, l'électrochimie, également une équipe dans l'Ohio, à Columbus dans l'Ohio, qui est une équipe de jeunes ingénieurs. On finance leurs études et ce sont des ingénieurs qui travaillent sur notre programme de record de vitesse.
Comment comptez-vous régler les problèmes d'autonomie de vos véhicules électriques ?
L'autonomie, c'est vrai que c'est ce qu'on reproche le plus aux véhicules électriques parce qu'en fait, on demande aux véhicules électriques de répondre à tous les usages. Autant je travaille sur des véhicules à très haute performance, des véhicules de record, des véhicules sportifs, autant aujourd'hui, le marché pour ces véhicules électriques, c'est essentiellement les livraisons en ville. Donc c'est beaucoup moins sexy que la voiture de sport, l'aventurier très sportive et finalement très chère, mais c'est beaucoup plus utile. Premier objectif aujourd'hui, c'est diminuer les émissions polluantes en ville et que chacun d'entre nous, et surtout les plus jeunes qui ont des problèmes pulmonaires, n'aient pas à souffrir de tout ça. Alors on sent peut-être pas trop ça à Monaco, mais dans les très grandes villes, c'est vrai qu'à certaines heures, c'est parfaitement irrespirable. C'est le premier objectif de nombreuses entreprises que d'arriver à faire de la livraison la plus propre possible et donc ce sont nos premiers clients. C'est la raison pour laquelle on a d'abord servi la Poste française et aujourd'hui la Poste monégasque également avec des véhicules électriques. Même si je suis à fond dans le véhicule électrique, même si je roule en véhicule électrique et j'espère que vous soyez la génération qui roule aussi en véhicule électrique, on ne va pas comme ça s'est passé il y a plus de 100 ans entre le véhicule à cheval et les premiers véhicules à moteur, on ne va pas changer du jour au lendemain. Cela va être très lent parce qu'également, nous sommes dans une industrie très lourde. Ce véhicule électrique, il va arriver aussi sur du 2 roues et 3 roues de livraison, vous verrez dans les mois qui viennent. Et puis, il va falloir attendre quelques années pour qu'on puisse arriver à une maturité de ce marché-là, à des équipements de recharge suffisants. Donc, c'est finalement un nouveau métier qui arrive, qui n'est plus tout à fait, bien sûr, celui de mécanicien, mais qui est un métier de technicien très spécialisé dans le domaine du véhicule électrique. Et bien sûr, il faut du temps. Il faut que les personnes soient comme vous, formées pour arriver à mettre les mains dans ces installations-là.
De quelle manière les utilisateurs pourront-ils recharger leur véhicule alors que le paysage urbain ou rural n'intègre pas suffisamment de bornes adaptées ?
Alors, Monaco, le cas est un peu différent puisque l'État, dans les parkings publics, met à disposition pour les voitures essentiellement des prises électriques. En même temps, on a mené une expérience assez rigolote. On a envoyé une voiture de Shanghai à Paris et puis à Monaco. Ils ont traversé donc toute la Chine, Kazakhstan, donc tout ça pour arriver en Europe sans qu'il y ait eu autre chose que des personnes qui leur ont ouvert la porte de chez eux et où ils ont mis une rallonge pour se brancher. On a fait la démonstration, d'une part, que nos véhicules étaient très solides, d'autre part, qu'on peut très bien vivre sans avoir des bornes partout. Donc la consommation de la voiture électrique va passer dans un véhicule qui vous appartiendra peut-être pas et que vous allez pouvoir partager à faible coût. En France, une réglementation qui se met en place dans les copropriétés, à Monaco également. Donc il va falloir un petit peu de temps, mais aujourd'hui, ces deux roues coûtent encore trop cher. On en parlait en aparté, il y a des gros scooters électriques qui ont été vendus pendant quelques mois à Monaco. J'en ai acheté un moi-même et l'entreprise a fait faillite. Bon, ils ont fait faillite parce qu'en fait, ils étaient beaucoup trop chers et personne ne les achetait. Alors le principe de l'industrie est simple, c'est plus vous fabriquez, moins ça coûte cher. Donc il faut qu'il y ait une maturité du marché pour arriver à ce volume clé. Pour démarrer la machine, il faut des utilisateurs qui sont prêts à payer un peu plus cher. Et c'est le cas, je le disais, de La Poste, mais il y a également tout un tas d'autres sociétés. On peut prendre le cas, par exemple, au hasard de Nescafé, qui regarde aujourd'hui à livrer ses capsules de manière la plus propre possible, puisque l'impact environnemental des capsules aluminium est quand même important. Donc ils se disent, comment livrer de manière très propre? Eh bien, on va faire réaliser des engins spéciaux électriques qui vont nous coûter un peu plus cher, certes, mais ils ne vont pas avoir d'impact ou un impact relativement faible sur l'environnement. Donc du coup, on est gagnant. On débute par des utilisateurs professionnels et il faudra 3-4 ans avant que vous puissiez vous bénéficier à un prix attractif d'un engin électrique.
Pensez-vous que les projets que vous proposez soient adaptés à une consommation de masse? D'autant plus qu'avec l'arrivée massive de voitures électriques, la demande en électricité risque d'augmenter de plus en France qu'elle est d'origine nucléaire.
Cette production électrique, elle peut être gérée très finement, puisque les recharges peuvent s'organiser notamment grâce à des systèmes distants. Prenons le cas de l'État de la Californie, qui aujourd'hui est à saturation de sa production électrique, des moments où il y a des pics de consommation, et la Californie, c'est essentiellement des centrales à fioul, donc très polluantes, et ils ne savent pas quoi faire quand ils ont ces pics-là, donc ils coupent l'électricité. Eh bien, le véhicule électrique, il peut se recharger à des moments précis. Considérez, par exemple, sur 10 000 véhicules électriques connectés à un moment donné, que lorsqu'il y a un pic, justement, de consommation, lorsque tout le monde a besoin au même moment de cette électricité, eh bien, que les véhicules électriques, comme c'est le cas peut-être sur vos ordinateurs, eh bien, soient capables de renvoyer l'électricité dans le réseau. Chez nous, ça démarre très lentement. Il n'y a pas d'inquiétude de saturer immédiatement notre réseau électrique.
Pour la clientèle jeune, entre 14 ans et 20 ans, que nous représentons, avez-vous des projets de vélos et de scooters propres, accessibles financièrement et sécurisants?
On fait des produits de marque Venturi, mais on travaille par exemple pour d'autres marques automobiles en fournissant soit de l'ingénierie, c'est-à-dire ce sont nos ingénieurs qui dessinent des composants, qui réalisent des ensembles. Dans le cas précis, par exemple aujourd'hui, nous fournissons de l'électronique à des fabricants de vélos électriques. Donc aujourd'hui, on n'est pas fabricant, par exemple, de vélos, mais c'est vrai qu'à force de fabriquer des produits pour d'autres, ça donne envie d'en faire aussi. Donc je ne suis pas sûr qu'un beau matin, on ne sorte pas un vélo électrique. Pour ce qui est des scooters, je vous ai parlé donc en avant-première de ce projet qui s'appelle Wattman, et je pense que c'est un projet qui arrivera pour le grand public. Donc la production professionnelle, c'est 2013, le grand public, 2014-2015. Ça, c'est une première.
Nous savons que votre véhicule Jamais Contente et son moteur de 800 chevaux a atteint les 515 km/h en août 2010 sur le lac Salé de Bonneville. Avez-vous un nouveau projet afin de battre ce record?
C'est très embêtant quand vous avez battu un record de se dire vous allez vous battre vous-même. Mais en même temps, parfois, il faut savoir anticiper. Donc, on espérait que quelqu'un vienne nous battre. Il y a des gars qui ont fabriqué des voitures pour nous battre, mais ils ne nous ont toujours pas battus. Donc, on ne pouvait pas rester les bras croisés. On a battu d'abord un premier record pour un véhicule fonctionnant à pile à combustible. Donc, c'est un véhicule électrique avec un système qui, à partir d'hydrogène et d'oxygène, produit l'électricité. Donc, on a fait un record du monde avec ce véhicule-là, puis un record du monde pour un véhicule électrique. On a fait un record de distance de Shanghai à Paris. On a un véhicule qui va bientôt traverser l'Afrique. On a des véhicules qui vont aller en Antarctique. Vous voyez, on s'ennuie pas tellement. Ça fait beaucoup, beaucoup de programmes en même temps. Mais quelle chance pour notre équipe de vivre des expériences comme celle-là. Développer un véhicule qui va fonctionner à moins 50, ça nous oblige à mettre en question complètement la conception d'un véhicule électrique. Ça nous oblige à aller vers des technologies qui sont beaucoup plus du domaine de l'aviation, du spatial. Pour nous, il n'y a pas encore de Grand Prix de Formule 1 électrique. Pour nous, c'est nos Grands Prix de Formule 1, c'est notre laboratoire et c'est une émulation pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, on développe un moteur, c'est un ensemble de moteurs de 3000 chevaux pour une nouvelle voiture. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 3000 chevaux. Avec un couple phénoménal, il faut tout inventer parce qu'il y a tellement de couples que les transmissions ne résistent pas. Donc c'est un véhicule qui va s'approcher des 800 km/h dès l'année prochaine. À côté de ça, on développe aussi une voiture de record un peu plus petite. Je ferai un record avec cette voiture dans les quelques mois qui viennent. Donc je vais reprendre un peu le volant. Et au départ, on parlait de passion. Moi, je fais ça par passion, mais c'est un métier, donc c'est très sérieux. Et j'ai la chance d'être entouré d'une majorité de jeunes qui sont aussi passionnés par leur métier. Et je peux vous dire que je suis obligé le soir d'aller taper à la porte des bureaux et dire faut rentrer à la maison. Parce que c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Et je crois que l'objectif de tout le monde dans la vie, hein, c'est d'arriver à être d'une part bon dans son métier, si possible même le meilleur dans ce qu'on fait, d'être respecté pour ce travail-là et forcément payé en fonction. Mais c'est d'avoir une partie de son métier. Rien n'est parfait. Quand on fabrique des camionnettes, c'est absolument pas passionnant. Mais dans nos camionnettes, il y a le même niveau de technologie que dans une voiture de record. Il y a la même nécessité d'être extrêmement léger, d'avoir un rendement exceptionnel. Et c'est finalement une sorte de philosophie d'entreprise. Pourquoi faire des records? Voilà, ça nous permet donc de mettre au point des technologies. Quand vous allez dans un désert où il fait 55 degrés, quand vous allez en Antarctique où il fait moins 50, bah forcément vos composants, ils sont obligés de tenir la route. C'est pas l'objectif de tester comme ça, en fait. Mais c'est aussi important de tester dans la vie réelle, parfois.
Merci à Monsieur Gildo Palanca-Pastor pour nous avoir accordé cette interview et fait partager sa passion des véhicules et des nouvelles technologies. Donnons à présent la parole à Tom pour un sujet qui va intéresser les plus jeunes. L'éco-conduite, oui, mais cette fois-ci adaptée au scooter. Bonjour Tom.
Bonjour Marvin. Eh oui, l'éco-conduite s'applique également aux deux roues. Du point de vue environnemental, ils peuvent être une alternative à la voiture quand on sait que deux roues émettent moins de CO2. Particulièrement vulnérables sur la route, les conducteurs de motos et de scooters doivent redoubler de vigilance et leur degré d'anticipation du risque routier doit être au maximum pour préserver leur sécurité. Avec une éco-conduite, ces usagers de la route adoptent plus facilement des réflexes indispensables pour maîtriser leur conduite et lutter contre le bruit et les émissions de gaz polluants, deux phénomènes qui leur sont souvent reprochés.
Mais alors, les règles pour l'éco-conduite sont-elles les mêmes pour les scooters ?
Les règles sont les mêmes que pour les automobilistes, excepté que les scooters ne peuvent pas passer les rapports puisqu'il n'y en a pas. Ils doivent donc miser sur les autres principes d'éco-conduite, à savoir rouler moins vite et à une vitesse stable, couper le moteur à chaque arrêt et entretenir correctement son engin. L'apprentissage de l'éco-conduite va plus loin pour les usagers de scooters, notamment les plus jeunes. En effet, les nombreux stages de conduite pour l'obtention du BSR se basent sur une formation éco-responsable consistant à adopter une conduite apaisée, respectueuse des autres et de l'environnement, à réfléchir au comportement et à la place que chacun occupe dans la circulation et surtout se familiariser avec son véhicule. Un bon point pour les fabricants de motos et de scooters qui sortent à leur tour des alternatives peu polluantes, vélo électrique, scooter hybride, scooter électrique, en passant par la moto rechargeable sur secteur. Bref, autant de solutions écologiques qui ont un bel avenir.
Merci à tous pour votre écoute.
Et merci à l'ensemble de la classe qui a réalisé ce magazine.
Merci à Radio Éthique pour nous avoir permis de le faire et à Gildo Palanca Pastor pour y avoir participé.
Bonne route à tous.
C'était le magazine de l'éco-conduite, réalisé par les élèves de seconde génie industriel du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo et Radio Éthique.